Moulard, un lycée en 1989, écrit en 1864. Mesdames, messieurs, vous connaissez cet état délicieux d'un sommeil sans fatigue où l'on se réveille en achevant un songe commencé. La raison, paresseuse encore et sans sévérité, se contente de mettre un peu d'ordre dans les combinaisons ingénieuses de l'imagination qui continue son beau voyage. Celle-ci était partie sans sa sœur, son guide et sa lumière. Elle termine avec elle sa course, conduite un peu, mais plus souvent en marchant en avant. C'est le rêve. Voici le mien. À la fin du mois de mai, un matin, je m'achemine vers le lycée de garçons. Il est construit sur le plateau qui borde la vallée dans le faubourg Saint-Pierre. L'architecte a eu à sa disposition un terrain magnifique. D'une terrasse à la limite sur les bords de la route de Rivry, on domine nos marais, nos ortillonnages. On voit fuir et se perdre la Somme dans des massifs verts. J'avais pris le tramway au bout de la rue Saint-Louis, sur le boulevard extérieur et traverser la Somme et les étangs près de la solitude Gresset. Une municipalité active, sans faire crier le contribuable, je sais comment elle s'y est prise, avait achevé le boulevard qui forme une ceinture autour d'Amiens agrandi. Et de l'autre côté, il passait à travers le faubourg de Herne, traversait aussi la rivière sur un large pont et tournant derrière le quartier riche et peuplé bâti sur l'emplacement de la citadelle démolie, il arrivait près du lycée, joindre le réseau de l'Est. La grande voie centrale, qui forme avec les rues de la République des Sergents, Flatters et Saint-Leu, élargie une artère principale de la cité transformée, amenait les écoliers de l'intérieur de la ville. Le service est si bien organisé que des points les plus éloignés, il ne faut pas plus de 20 minutes pour arriver en tramway au lycée. L'écolier paye 10 centimes par voyage et des abonnements réduisent encore ce prix. J'arrive avec un flot d'élèves, quelques-uns sont venus en vélocipède. Tout ce long passe ce grand trajet à faire. Autour du lycée, quelques maisons reçoivent les pensionnaires. La plupart ont des jardins spacieux. La loi défend aux maîtres d'avoir plus de 100 internes. Du reste, les inspecteurs de l'État visitent ces établissements comme ils visitent les usines où travaillent des crèvecons enfants. L'internat est supprimé dans les écoles publiques. On a bien jeté les habitants, les hauts cris, paraît-il. Mais comment allons-nous avoir à nous occuper de ces enfants? Il faudra les surveiller, prendre une responsabilité qu'il était si commode de rejeter sur l'administration. Puis, après avoir crié, on a trouvé que rien n'était plus simple. Les habitants de la ville ont gardé leurs enfants. Ceux du dehors ont trouvé, pour se charger des leurs, des familles amies, des professeurs, des pensionnats. Et dans toute la France, d'ailleurs, on a ainsi séparé l'instruction de l'éducation. C'est un spectacle nouveau pour moi que celui de ce grand lycée, avec ses vastes constructions, ses cours, ses jardins, ses allées, peuplées de plus de 1200 écoliers. Il n'y a pas d'élèves au-dessous de 12 ans. Dans les établissements, les seuls que je connusse, j'avais constaté la présence d'innombrables marmots, presque en robe, et je cherchais parfois les nourrices qui en avaient soin. Je bénis le progrès qui a séparé les générations et laissé les enfants aux mères. Il n'impose plus une tâche impossible à de malheureux administrateurs. Mais comment trouver mon itinéraire dans ma visite? Je demande à un élève qui passe la demeure de monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur, qu'est-ce que cela, monsieur ? Ben, le directeur, si vous voulez, le principal, l'administrateur du lycée. Ah, notre doyen ! Tenez, là, à droite, cette maison à un étage, avec le petit parterre qui l'entoure, est la demeure du doyen. Un doyen, mais qui le nomme ? Le conseil ? Mais quel conseil ? La réunion de 10 professeurs élus par leurs collègues, de 6 conseillers municipaux et de 6 pères de famille. Il est présidé par monsieur le maire, un ministre de notre lycée. Je vous remercie, mon ami. Voudriez-vous me dire... Pardon, monsieur, interrompit l'élève, on m'attend. Au laboratoire. Mais si vous voulez des renseignements, entrez dans ce kiosque. Vous y trouverez probablement tout ce que vous désirez savoir. Le kiosque est à peu de distance, près de la grille d'entrée. C'est une construction légère et élégante. Autour de la pièce, à forme octogonale, se trouvent des sièges et des tables. Sur un mur, en face de la porte, est un grand plan à l'encre avec une légende très lisible, indiquant la destination des bâtiments. Un plan plus petit, en relief, figure sur une table au milieu du kiosque. On trouve sur des tableaux apposés au mur, dans des albums posés sur des pupitres, tous les renseignements possibles. Le nom des professeurs, les programmes, les jours et heures de cours. Ce qui ressort de l'examen attentif des documents mis à la portée du public, c'est que les parents eux-mêmes, et non l'administration, détermine l'instruction qui sera donnée à leurs enfants. Cela se comprend avec le système d'enseignement. Le lycée met en effet à la disposition du public un programme d'ensemble et des cours facultatifs. Or, le programme d'ensemble n'est pas chargé. Le français, un peu de latin, l'histoire et la géographie de la France avec des notions sur l'histoire et la géographie universelle, des éléments d'arithmétique, de géométrie, de physique, de chimie et d'histoire naturelle en sont les objets limités. L'élève qui a suivi les cours de ce programme peut obtenir un certificat d'études. Il est extrêmement sérieux. On demande plus de bon sens que la mémoire, plus de science digérée que l'érudition. Néanmoins, un élève laborieux et qui ne poursuit que ce but peut l'atteindre en 2 ans. La plupart y consacrent plus de temps, soit pour être plus sûr de leur science acquise, soit pour ajouter à leur certificat, en plus ou en moins grand nombre, les mentions des matières facultatives sur lesquelles ils ont subi un examen. Il y a en France un nombre considérable d'établissements semblables dont le programme essentiel imposé par la force des choses et non par la loi est le programme très simple du certificat d'études. Il exige à peine pour sa mise en pratique 8 à 10 professeurs, mais le nombre des cours facultatifs dans chaque établissement varie avec les besoins et les ressources de la ville. Le lycée d'Amiens est une personne morale. Il est très riche. Comme il a été fondé par la commune et qu'il est administré par un comité dans lequel les conseillers municipaux et les pères de famille ont une part considérable, on a fait des donations nombreuses parce qu'on sait qu'elles profiteront à la ville. 48 chaires ont été fondées par des particuliers qui en ont assuré la perpétuité. L'État en a établi 17, le département 12 et la commune 26. Une chaire ne peut être créée si elle n'assure au professeur un traitement assez fort pour qu'il lui soit interdit de donner des leçons particulières. Souvent, en cas de vacances, le conseil, lorsqu'il a des ressources suffisantes, appelle un professeur nommé à qui il offre une position supérieure à celle qu'il occupe ailleurs. Tous les 5 ans, pour chaque cours, à partir de la nomination du titulaire, le Conseil procède à un examen des résultats du cours, et soit sur la proposition d'un de ses membres, soit sur celle d'un inspecteur de l'État, peut remplacer le professeur insuffisant. Mes examens ont lieu à la fin de l'année scolaire, en présence des élèves et du public, par un jury composé d'autant de professeurs qu'il y a de matière dans l'examen et dirigé par un président que désigne l'État. Avant d'entrer dans la salle des examens, je regarde un tableau sur lequel les candidats sont inscrits avec l'indication des matières sur lesquelles ils ont demandé à subir l'épreuve et des notes obtenues dans les cours qu'ils ont suivis. J'entre. Un grand gaillard d'environ 18 ans, à la barbe naissante et sur la sellette. Il balbutie d'une façon désolante. Il est troublé par les questions les plus claires. L'examinateur l'interroge avec simplicité. Rien d'affecté dans sa bienveillance, de raide dans sa tenue. Et l'élève se remet bientôt. Il devient brillant. Il est reçu. Les notes de cours étaient bonnes. Un autre lui succède avec un air d'aplomb et de bravoure. Il parle sans respirer. Arrive une question plus difficile. La mémoire ne suffit pas. Le candidat feint de se troubler. L'examinateur qui le connaît ne change cependant pas d'attitude. Après tout, l'élève peut se tromper sur un point. Des interrogations sur les parties différentes du sujet sont multipliées et après une épreuve plus longue que la précédente, l'élève est refusé. Ses notes étaient médiocres. Ce qui me frappe, c'est le bon sens du juge. J'avais souvent vu, lorsque l'interrogatoire devait durer un quart d'heure, un examinateur fait une question unique sur un programme très étendu et au bout de 2 minutes de silence, dire à l'élève qu'il voyait pour la première fois « Assis-vous, monsieur, vous ne savez rien. » D'autres, il est vrai, qui voulaient être plus justes et arrivaient seulement à être moins brutaux, variaient pendant ce quart d'heure les termes de leur unique question. Je vois bien que ce mode d'examen par les professeurs qui ont connu l'élève, dont il a suivi les cours, avec la garantie de la publicité, de la présidence d'un délégué de l'État, avec les notes contrôlées par des camarades, offre de grands avantages et ne comporte pas ces hasards singuliers et décourageants dont j'ai été autrefois le témoin. Combien, en effet, d'excellents sujets ont été ahuris par des questions d'un professeur qui avait ses méthodes, ses démonstrations spéciales, qu'il s'indignait d'avoir ignorées. La manière d'interroger peut faire d'un programme un véritable piège. On peut affirmer que l'examen, plus que le programme officiel, décide de la direction, de l'étendue et de la bonté de l'enseignement dans un pays. Le choix des examinateurs est donc d'une importance capitale. Il y a dans l'auditoire à côté de moi le représentant d'un grand journal de Paris. Après avoir parcouru divers établissements, il veut signaler la valeur de leur certificat d'examen. Il me fait part de ses impressions et de son projet. Cela me paraît nouveau, de voir comparer entre eux des diplômes d'études comme on compare entre elles des marques de fabrique de deux chocolatiers. Mais ce n'est pas cela qui me déconcerte le plus. C'est la suppression de tous ces cadres, de tous ces diplômes que j'avais cru jusqu'ici essentiels. Mais qu'est devenue cette belle division de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ? Et tous ces grades, 5 baccalauréats, 8 ou 10 licences, 5 ou 6 doctorats, brevets de capacité du premier degré, du deuxième degré, certificat d'aptitude, diplôme de pédagogie et bien d'autres. Les examens professionnels, combinés avec des examens non professionnels, des grades pour les hommes, d'autres grades pour les femmes. Comment l'université avait-elle pu détruire toutes ces belles choses pour arriver à ce mince certificat d'études délivré par ces établissements? J'avis heureusement un visage connu. C'est un membre de la Société des antiquaires de Picardie. Il paraît jeune malgré ses cheveux blancs. Je lui fais part de mes doléances et lui demande la raison de ces changements. « Mais d'où venez-vous, mon cher ?» me dit-il. « N'avez-vous pas lu mon rapport sur l'instruction publique en France de 1881 à 1895, époque où s'accentuèrent les réformes qui amenèrent la transformation, dont vous voyez les suites ?»« Non, non, il ne m'a pas été envoyé. » « Alors vous auriez vu que la multiplicité des programmes et des diplômes avait conduit à la suppression des uns et des autres et au certificat d'études, que vous trouvez bien mince, mais qui est plus vrai que tant de diplômes. »« Mais c'est un paradoxe. Nullement, me répond l'antiquaire. En 1887, comme aujourd'hui, l'université a voulu donner aux pères de famille la liberté de choisir le genre, le degré, la quantité et le mode d'instruction qu'ils voulaient donner à leurs enfants. Ils demandaient autrefois à exercer ce choix en vue des carrières auxquelles ils les destinaient et à raison de leurs aptitudes. Et pour leur donner satisfaction, l'université multiplia ses diplômes et ses programmes. Mais elle admettait encore au dernier siècle l'indivisibilité de tout programme. Si l'élève ou sa famille en choisissait un, il fallait le prendre tout entier. Oh, cela ne contentait personne et n'offrait aucune stabilité parce que le progrès dans toutes les professions faisait réclamer incessamment des changements qui aboutissaient toujours à une augmentation de chaque programme. Aujourd'hui, un établissement d'instruction dit aux parents « Voici la liste des cours que mes ressources me permettent de vous offrir. Choisissez. J'attesterai, si vous me le demandez, avec quel succès vous avez reçu telle ou telle partie de mon enseignement. Plus ou moins, cela ne regarde que vous. » Je remercie mon antiquaire et, sorti de la salle d'examen, je me dirige vers les classes pour étudier la forme et le fond de cet enseignement. Tout d'abord, il est bien véritablement public. Je le constate en entrant dans une des classes de philosophie, celle de la morale sociale. Cette classe ressemble dans sa disposition générale à toutes les autres. Il y en a un très grand nombre, bien aérés, non moins bien éclairés, dans tout le soleil entre largement, ce qui ne paraît pas superflu dans nos froides et humides contrées. Et l'auditoire est partagé en trois parties. Sur les bancs de la première partie prennent place 25 à 30 élèves. Ce sont ceux qui font des devoirs, répondent aux questions des professeurs et entendent faire constater les résultats de leur travail par un examen. On estime qu'un bon professeur ne peut s'occuper d'un plus grand nombre d'élèves, même lorsque, comme dans notre lycée, il ne donne pas de leçons particulières. Derrière ces élèves s'en trouvent d'autres, auditeurs, qui ne sont pas interrogés et ne sont pas assujettis à aucun devoir. Oh, il peut s'en placer presque autant qu'il y a d'élèves dans la première catégorie. Enfin, séparé des jeunes gens par une barrière, se trouve le public. Il entre par une porte spéciale, et bien entendu, il n'a qu'un petit nombre de places. N'entre pas qui veut. On ne passe pas la porte du lycée sans une carte, mais tout père ou tuteur a la sienne. Il faut que ce système de publicité et produit un bon effet, car on m'assure que la plupart des lycées de France l'ont adopté. L'émulation entre les élèves, la préparation des leçons par le professeur, l'élévation des idées, l'autorité des parents, tout y gagne. Le cours de morale sociale a pour objet ce matin la réciprocité des services. Le professeur traite de la justice et de la charité. Je suis frappé du résumé que fait un élève et de l'incident qui s'ensuit. Les hommes, dit en terminant le jeune lycéen, se méprennent facilement sur la réciprocité des services, base de la justice. Vous allez chez un marchand acheter un bambi, une pendule, un peu de pain de sucre. Il vous remercie. Peut-être a-t-il raison, puisque vous êtes libre d'aller acheter ailleurs. Vous entrez dans un bureau et demandez au fonctionnaire un service qui est de son office. C'est lui que vous remerciez, même lorsqu'il vous l'a rendu en maugréant. Alors n'est-ce pas une contradiction? Le fonctionnaire, comme le marchand, est payé pour le service qu'il rend. Et si quelqu'un devait remercier l'autre, ce serait plutôt à lui à remercier l'administré qui lui a procuré une occasion de faire son devoir. Le professeur interrompt l'élève. Alors, bon cours, fini. Vous sortez d'ici le cœur léger de reconnaissance. Oh, monsieur, dit l'élève rougissant, nous savons bien reconnaître ceux qui nous aiment. Les autres, fussent-ils clairs, instruits, utiles, mesurent toujours ce qui nous est dû pour ne pas aller au-delà. Ils pratiquent bien la réciprocité économique des services échangés. Quant au premier, en nous aimant, ils nous donnent plus qu'ils ne nous doivent, et c'est ce que nous n'oublions jamais. Après avoir entendu cette leçon de choses et constaté qu'on apprend aux élèves à parler, j'entre dans une classe de littérature française. Le XVIIe siècle est le sujet d'étude. Peu de grammaire et de critique de mots, beaucoup de lectures faites avec lenteur et expression. On goûte les modèles, on s'en nourrit, on ne s'amuse pas à les disséquer grammaticalement, et ils restent beaux, simples, éloquents et vivants. J'entends dire souvent que les femmes de Corneille se montrent les sœurs de celles de Molière. C'est le même robuste bon sens. En écoutant cette leçon, je constate une fois de plus dans quelle large mesure l'instruction bien dirigée fait partie de l'éducation morale. Il est certain que la culture des grands écrivains de tous les temps, l'étude des types qu'ils ont créés, font prendre à l'âme des habitudes exquises. La vertu, l'héroïsme, la haine du vice, le mépris de tout ce qui est petit et vil, décrits ou exposés par le poète, l'orateur, l'historien de génie, éclaire, guide, corrige et élève le cœur. Il vit dans une atmosphère purifiée qui lui devient nécessaire. Ainsi, le niveau monte peu à peu dans une nation et les fortes mœurs suivent les saines idées. J'ai toujours eu un faible pour la géométrie et c'est avec bonheur que je la retrouve. Le professeur qui l'enseigne à des démonstrations élégantes. Sa belle et sympathique figure m'attire. À la fin de sa leçon, je l'aborde et nous devenons amis. Il reste mon guide jusqu'à la fin de ma visite au lycée. Je lui demande si les sciences avaient encore le pas sur les lettres. Il me regarde tout surpris. « À votre langage, me dit-il, je vois que vous comprenez la philosophie, l'histoire, la morale et bien d'autres choses dans les lettres. » Oui, c'est vrai. J'ai entendu tant d'hommes de science englober toutes ces choses dans un même tout qu'ils avaient un certain dédain. Oh, vous ne trouverez rien de pareil ici. Il n'y a pas un professeur de science qui n'ait des lettres de très haute estime. Aucun antagonisme n'existe entre les professeurs des deux ordres. Nous nous rendons compte de la différence de leurs objets, en même temps que de l'indispensable nécessité de l'un et de l'autre. Si, au point de vue de l'utile, ce que vous appelez dans un sens restreint la science découvre les lois du monde physique et nous apprend comment nous devons les faire servir à la satisfaction de tant de besoins, nous savons que les lettres que vous lui opposez à tort ont pour objet l'éducation du cœur. Les objets sont différents, mais le but est le même. Le développement et l'amélioration de l'humanité. Nous aidons à détruire la misère en découvrant le secret de la fécondité de la nature. Nos collègues connaissent les liens qui unissent trop souvent l'immoralité à la misère. Mais comment y aurait-il antagonisme entre nous ? Nous cherchons les lois de la multiplication des pains. Nous ne prétendons pas trouver celles de leur distribution, ni gouverner le cœur dans sa libre expansion. Alors, il n'existe point de rivalité entre les professeurs de sciences et les professeurs de lettres ? Non, je n'ai jamais vu cet état, et je ne le comprends pas bien. Non, je vais vous l'expliquer. Le temps des élèves est partagé entre l'audition des cours et la confection des devoirs dans lesquels ils appliquent ou préparent leurs cours. Évidemment, il doit y avoir proportion. Mais si les professeurs de sciences absorbent par les devoirs qu'ils donnent, par une sévérité plus grande, plus de temps qu'il ne convient, ben il n'en reste plus assez pour le travail des lettres. Mais dans ce cas, objecte mon nouvel ami, le professeur de lettres peut agir de même et montrer la même exigence. Sans doute, dis-je. L'élève alors travaille uniquement pour ceci dont il a le plus peur. Et quand il a également peur de tous, il succombe à la tâche. Ah, je vous comprends maintenant, me dit le professeur. Mais vous raisonnez au point de vue d'une situation qui n'existe plus. Lorsqu'on avait un programme indivisible, on l'avait réparti par portions également indivisibles, de la sixième à la seconde, à la rhétorique et à la philosophie. Chaque professeur, soit d'histoire, soit de mathématiques, soit de lettres, soit de langues étrangères, pouvait céder à la tentation de charger ses élèves d'un trop lourd fardeau. Eh oui, c'est bien cela que je veux dire. J'ai vu beaucoup d'enfants rester ainsi en route, et qui n'étaient ni intelligents, ni paresseux, ni indisciplinés. Tous n'ont pas la même facilité de travail. Eh bien, ces inconvénients ne peuvent se produire aujourd'hui, me dit le professeur. Le programme indivisible n'existant plus, la division des classes n'a plus de raison d'être. Chaque élève connaît d'avance la méthode des professeurs. C'est à lui à ne pas embrasser plus de cours qu'il en peut suivre utilement. Il n'est donc plus possible à un maître de changer un élève, de le charger de devoirs au détriment du temps qui doit être consacré à d'autres. Aussi n'ai-je jamais vu cette rivalité qui semble vous tenir à cœur. Oh, pas au point de vue que vous croyez. Je sais qu'elle part d'un sentiment bien naturel à l'homme. Le désir de voir aimé et cultivé par d'autres, l'objet de nos préférences. Mais, ajoutai-je, votre organisation nécessite des rapports plus fréquents entre les professeurs et les parents. Elle suppose que ceux-ci suivent leurs enfants dans leurs études. Sans doute, mais vous pouvez dire aussi qu'elle exige aussi de très étroites relations entre les professeurs. Nous voyons en effet beaucoup, soit dans nos salles de travail, soit dans l'amphithéâtre, où tour à tour chacun de nous traite d'un sujet relatif à l'enseignement, à ce qui se fait en France, aux progrès réalisés à l'étranger. Voulez-vous visiter cette partie de notre lycée ? Oh non, je vous remercie, le temps me manque. Je désire seulement savoir où se rendent les élèves pendant l'intervalle des cours. Je ne vois pas de salle d'études. Elle doit pourtant être très nombreuse. Non, elles sont supprimées. Nous avons pour le travail personnel et réfléchi de nos élèves cinq grandes bibliothèques qui renferment en même temps tous les instruments de leur recherche. L'une est consacrée à la littérature française, latine et grecque. On y trouve tous les auteurs originaux des traductions. La seconde est pour les langues étrangères. La troisième pour les sciences morales et philosophiques. La quatrième pour l'histoire et la géographie. Elle possède de magnifiques collections de cartes. Et la dernière, de beaucoup la plus considérable, est destinée aux sciences exactes et naturelles. Elle a de nombreuses annexes dans les cabinets de physique, de botanique, de minéralogie, qui ont tous accès dans la bibliothèque. Et nous entrâmes dans la bibliothèque des lettres françaises et anciennes. Le long des murs sont rangés, dans des casiers à la portée de tous, environ 3 000 volumes. Autour de quatre tables immenses, 200 personnes prennent facilement place. Et je vois assis et travaillant un grand nombre de jeunes gens. Ils vont, sans bruit, prendre eux-mêmes les livres dont ils ont besoin, mais ils ne les reportent pas. C'est l'œuvre des appariteurs de ramasser les volumes laissés sur les tables et de les replacer dans leurs rayons. Ce système empêche la confusion. Tout élève qui trouble l'ordre est mis à la porte par le conservateur qui signale ensuite le coupable au doyen. Avant le passage de l'appariteur, je jette un coup d'œil sur quelques livres laissés. Il y avait autant d'originaux grecs ou latins que de traductions. J'en fais la remarque à mon compagnon. Et vous pensez donc, me dit-il, quand nous sommes dehors, qu'on ne doit pas permettre aux jeunes gens de lire des traductions? Ben, j'avoue que j'ai été élevé dans cette opinion salutaire. Mes collègues des lettres, répond mon interlocuteur, ne la partagent pas. Ils savent que la plupart de leurs élèves ne lisent pas couramment les originaux. Ils seraient bientôt rebutés. C'est possible, mais comment sentir les beautés d'un écrivain? C'est quelque chose de délicat qui tient à la langue et disparaît dans la traduction. Sans doute, et cela est beaucoup vrai des poètes et des orateurs, mais pour cela même et surtout pour les historiens, les philosophes, les moralistes, mieux vaut encore les lire dans une traduction que de ne pas les lire du tout. D'ailleurs, le lecteur qui connaît un peu la langue en découvre encore le génie sous le voile d'une traduction bien faite. Il faut constater qu'il est plus commode et très agréable de lire les traductions. Sinon, il faudrait les brûler comme inutiles à ceux qui connaissent bien la langue et nuisibles aux ignorants. On irait loin avec ce système. Il condamne également les gravures, les photographies, les copies en marbre ou en plâtre des chefs-d'œuvre des grands artistes. Ce ne sont que des traductions, après tout. Puisque vous me parlez d'art, dis-je en interrompant mon excellent guide, permettez-moi de blâmer le luxe que vous avez déployé dans vos jardins. Les constructions, quoique très élégantes, sont simples et par conséquent peu coûteuses. Mais que de statues, de bustes, de vases, de corniches, de bas-reliefs dans vos allées, sous les longs portiques, autour des bibliothèques. L'Antiquité, la Renaissance et l'art moderne y ont leurs vedelles les plus pures. Oh, cette vue continuelle de beaux modèles forme le goût de nos élèves, me répond le professeur. Depuis, nous avons là notre école pratique de dessin. La théorie est exposée et les leçons sont faites dans des salles spéciales. Mais nos élèves ont des albums. Et quand le temps le permet, ils viennent dessiner quelques-uns de ces modèles qu'ils trouvent partout. Vous avez peut-être remarqué que la bibliothèque des Beaux-Arts faisait partie de celle consacrée à l'histoire. Nous passons dans ce moment près de la portion des jardins destinée aux exercices du corps. C'est un grand espace uniquement consacré à cet usage. Il y a place pour la gymnastique, les barres, la course, le vélocipède, l'escrime, des bassins de différentes profondeurs pour la natation. Ce lieu est assez éloigné des cours et des bibliothèques. Je constate d'ailleurs que les élèves, fort gais, ne crient pas à s'arracher la gorge et qu'au bar, les discussions ne dégénèrent pas en disputes. Les sons qui pourraient aller au loin sont les chants patriotiques qui accompagnent les marches des exercices militaires. Mais il y a des heures spéciales. Et comme nous arrivons au bout de l'esplanade, vers la droite, j'aperçois un panache de fumée sortant des arbres. Oh, il me semble entendre le bruit de la vapeur, dis-je à mon obligeant compagnon. Oh, ce sont nos ateliers. Comment vos ateliers? Oui, nous ne pensons pas que pour être instruit, il soit nécessaire qu'un homme ne sache absolument pas se servir de ses mains. Et les ateliers sont nombreux et assez variés. Serrurerie, menuiserie, tissage, ébénisterie, tours, électricité, imprimerie, reliure et d'autres encore, au nombre desquels figurent des travaux qui ne sont complètement inconnus. Des jeunes gens, aux bras nus, attentifs, animés, manient le rabot, la scie, la navette, le ciseau, la gouge, le compensateur, la presse. Des contremaîtres sont là qui montrent et enseignent. Ce spectacle est bien curieux. Sur des bancs, sur des métiers, çà et là, se rencontrent un Sophocle, un Pascal, un Goethe, un Victor Hugo ou quelque autre livre. Les jeunes ouvriers lisent entre-temps. Nous attachons beaucoup d'importance à ces travaux manuels, me dit mon compagnon, témoin de mon joyeux étonnement. De plus en plus, l'intelligence est la souveraine de l'industrie. Ainsi le veut la concurrence qui, malgré les obstacles, fait rencontrer les nations sur tous les marchés du monde. Amiens n'est pas au dernier rang dans le mouvement qui a entraîné notre pays. Une généreuse émulation anime tous les habitants de la source et n'est pas seulement ici. Notre lycée n'est pas tout entier sous vos yeux. Mais comment cela? Il a en ville 16 succursales, toutes avec un ou deux amphithéâtres et l'annexe indispensable, la salle de travail bibliothèque. Elles sont réparties dans 16 quartiers différents. Tous les soirs, il se fait plusieurs cours dans chaque amphithéâtre. Un auditoire nombreux s'y presse. Jeunes gens en majorité, mais à vrai dire, gens de tous âges et de toutes professions. Comprenez comment, dans une grande unité, nous trouvons une variété et une liberté sans précédent. Et vous ne pouvez vous figurer, ajoute mon interlocuteur, combien ce système, pratiqué dans toutes les villes, a contribué en France à l'union des habitants en la fondant sur le respect réciproque des professions. Il n'existait guère autrefois, disent nos historiens, mais aujourd'hui, chacun connaît le prix du travail, quel qu'il soit. Chacun comprend que l'œuvre totale est le fruit du concours nécessaire de tous. Et il me semble que votre lycée est une école professionnelle d'enseignement technique. Non, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ce qui est certain, c'est que nous ne préparons nos élèves à aucune spécialité, mais nous ne les éloignons ni les dégoûtons d'aucune. Nous condamnons tout système d'enseignement qui sépare l'enfant de la vie réelle, comme cela se faisait dans les grandes casernes ou couvents d'autrefois, dont il reste encore 2 ou 3 exemplaires dans l'Ouest. Ah, il ne manque plus que le théâtre, dis-je, espérant prendre en défaut de témérité les organisateurs de ce singulier lycée. Mais le voici. Venez mercredi, vous pourrez assister à une représentation d'Andromaque. La semaine dernière, on joua les Burgraves avec un ou deux scènes du Wallenstein de Schulz. Nos professeurs de lettres prétendent que rien ne remplace cette interprétation vivante de l'œuvre d'un poète. Je garde le silence. Où est le temps, me disais-je, où notre proviseur eut impitoyablement refusé de nous conduire au théâtre, même lorsque Rachel venait à Amiens? Au cirque, bien, oui, regarder des clowns ou des danseuses pirouettant sur un cheval au galop paraissait bien plus propre, former le goût, et bien moins dangereux que d'aller voir une actrice jouer Émilie ou Athalie, entendre un acteur réciter les grands vers du Cid ou les fureurs d'Oreste. Enfin, dis-je à mon professeur, je vous félicite, vous formez réellement des hommes et des citoyens. Mais nous ne formons rien du tout. L'homme se forme seul. Seul, il acquiert les vertus du citoyen. Nous nous bornons à guider ces jeunes gens, à mettre en leur force et tout ce qui peut concourir, tout ce qui peut les nourrir, élever leur âme, fortifier leur esprit, exercer leur activité physique et morale. Nous ne leur coupons pas les ailes. Mais la discipline, objectai-je timidement, un peu décontenancé par la vivacité de la réponse. Mais la discipline ne consiste pas à mettre des lisières aux enfants et à les leur conserver toute la vie. Si on n'apprend à s'y soumettre qu'au lycée, il est trop tard. Elle commence au bureau, au berceau, se développe dans sa famille, s'affermit à l'école. Elle vient de l'exemple surtout. Et si l'amour du devoir, l'esprit d'obéissance à l'ordre, le respect d'autrui n'existe pas dans la famille, si le père et la mère ne s'entendent pas, et si la direction donnée par l'un est sourdement minée par l'autre, si l'union ne règne pas entre tous les membres du même foyer, poursuivant le même but, l'enfant ne saura jamais ce qu'est la discipline. Il tremblera devant la menace, fuira le châtiment parce qu'il fait souffrir, se courbera sous les coups. La dureté le trouvera révolté comme un esclave ou le rendra flatteur comme un valet. Il n'aura pas l'activité à la fois spontanée et ordonnée de l'homme libre, obéissant au devoir qu'il aime. La France, après la guerre de 1870, a compris qu'il fallait s'attacher aux choses de l'éducation. L'université s'est mise à l'œuvre. Elle a inauguré dans cet établissement, et peu à peu, le système de la liberté des matières facultatives. En même temps, elle réformait l'enseignement des jeunes filles et réussissait lentement à le généraliser. Une féconde émulation était créée entre les frères et les sœurs, et du même coup, on préparait la paix, l'ordre et l'unité dans le foyer domestique. C'est en 1888, monsieur, que dans 20 lycées de garçons, on a supprimé l'internat. La famille, à partir de ce moment, a accepté presque partout son rôle d'éducatrice. Les classes de la société se sont mêlées davantage. La tolérance politique et religieuse est devenue dominante. L'ordre dans les esprits, qui engendre la discipline dans les armées, était établi. En 1920, on pouvait dire que l'unité morale de la France existait. L'autre suivit bientôt. Mais c'est en 1930 que de Metz à Bordeaux, de Strasbourg à Dunkerque, la France s'est retrouvée avec tous ses enfants relevés, heureuse et pacifiée. Ces paroles d'histoire résonnent agréablement à mon oreille lorsque, par un de ces brusques changements si fréquents dans le rêve, la scène change. Je me trouve dans une vieille classe, aux fenêtres profondes, sans lumière. Les murs d'un gris jaunâtre sont tachés d'encre et tapissés dans les coins de toiles d'araignée. Un poêle rouge, dont le noir tuyau traverse la salle, la remplit d'une chaleur sèche. Et je suis assis avec mes camarades, entre des gradins trop étroits. Et nous écrivons sur nos genoux. Une voix aigre sort de la chair. « Hé, Boulard, votre devoir est fait trop vite. Il est paradoxal. Vous ne sortirez pas jeudi et vous copierez 500 vers. » Le réveil, cette fois, fut complet. Et je constatais avec plaisir que l'année 1845 se perdait dans le passé et que déjà la logique des choses avait depuis longtemps conduit l'université à introduire quelques réformes, en attendant celles dont mon rêve un peu confus m'avait montré l'application prématurée.